Chapitre 5. Si Lady Cappadoce ne supportait que difficilement et à son corps défendant les leçons de littérature française contemporaine, par contre elle était passionnée pour celle de la musique. Que cette musique fût allemande, italienne ou française, ancienne ou nouvelle, peu importait. Pour elle, il n'y avait ni nationalité ni âge. Tout à craindre de Lamartine, Hugo, Musset, Balzac, qui ne sont, comme chacun le sait, que des corrupteurs. Rien à redouter de Beethoven, Rossini, Verdi, qui sont des charmeurs. Infâme, le rap de la fille de Triboulet par François Ier, innocent, celui de la fille de Rigoletto par le duc de Mantoue. Pour elle, il en était des professeurs comme de leur science ou de leur art. C'était ce qu'ils enseignaient qui les faisait prendre en grippe ou en tendresse et qui leur donnait certaines qualités ou certains défauts. M. Lavalette, le professeur de littérature française, ne pouvait être qu'un sacripant, et Nicétas, le professeur d'accompagnement, qu'un charmant jeune homme. À la vérité, on lui avait dit et répété sur tous les tons que M. Lavalette était un critique de grand talent, un esprit distingué, une conscience droite, en tout le plus honnête homme du monde, mais son antipathie ne pouvait pas admettre cela. On ne savait pas, on se trompait. Au contraire, elle était disposée à voir un ange dans Nicétas. En pouvait-il être autrement avec l'âme et la verve qu'il mettait dans son exécution? Le supplice qu'elle éprouvait à écouter les leçons de l'un toujours trop longues se changeait en ravissement à celle de l'autre toujours trop courte. Installée dans un fauteuil vis-à-vis de Nicétas, elle ne le quittait pas des yeux et, tant que durait le morceau qu'il exécutait, elle restait plongée dans sa béatitude, dodelinant de la tête, battant la mesure avec ses deux pieds et laissant de temps en temps échapper de petits cris que l'excès du plaisir lui arrachait. Avec M. Lavalette, elle veillait de près à ce que l'heure de la leçon ne fût pas dépassée, et s'il se laissait entraîner à des développements qui l'intéressaient lui-même ou s'il s'oubliait, elle avait une façon de tirer sa montre qui lui coupait net la parole. Mais avec Nicétas, elle n'avait jamais eu de montre et tant qu'il voulait bien jouer, elle écoutait. Un morceau de musique ne s'interrompt pas comme une scène de comédie ou comme une pièce de verre. On va jusqu'au bout. Encore avait-elle d'ingénieuses ressources pour allonger la séance et même quelquefois pour la doubler. Tout à coup, retrouvant sa montre oubliée, elle s'apercevait qu'il était trop tard pour que Nicétas pût prendre le train. Il partirait par le suivant. Ou bien il pleuvait trop, ou bien il faisait trop chaud, ou bien trop froid. Et passant par-dessus les règles de l'étiquette et des convenances, qui pourtant lui étaient si chères, elle le gardait à dîner au château. Que faire en attendant l'heure du dîner? De la musique. Et comme s'il eût été indiscret de continuer le travail de la leçon, ce qui eût ressemblé à une sorte d'exploitation, elle demandait les morceaux qui lui plaisaient. Aucun autre professeur n'eût été honoré par elle d'une pareille faveur, et le soleil eût pu dévorer la plaine, le verglas eût pu rendre la route impraticable, sans qu'elle pensât à les retenir. Mais Nicétas n'était pas un professeur comme les autres. D'abord, il était musicien, et ce titre seul suffisait pour justifier toutes les faiblesses qui, pour lui, n'en étaient pas. Et puis, il y avait dans sa vie, sa naissance, ses habitudes, et même dans son attitude, des côtés mystérieux dont on parlait tout bas, qui plaisaient à l'imagination romanesque et chevaleresque de Lady Cappadoce. Jusqu'à l'année précédente, le maître de musique de Gislaine avait été le compositeur Soupin, qu'on avait choisi autant pour son nom que parce que c'était un voisin de campagne. Habitant Palaiseau, il lui serait facile de venir à Chambray sans grand dérangement et sans perte de temps. Mais si Soupin était un musicien de talent, par contre, c'était bien pour la régularité le plus détestable professeur qu'on pût trouver. Il n'y avait pas de meilleures leçons que les siennes, seulement il fallait qu'il les donnât, et surtout qu'il fût en état de les donner, ce qui n'arrivait que rarement. Après une période d'éclat qui avait duré une vingtaine d'années, Soupère était redevenu dans sa vieillesse le bohème qu'il avait été dans sa jeunesse. Rôdeur de brasserie de 18 à 30 ans, habitué des salons où il promenait de 30 à 50 une fille de grande naissance qu'il avait épousée, à 60, il vivait dans une masure du plateau de Palaiseau avec une blanchisseuse dont il avait fait sa seconde femme sans avoir nettement conscience de la distance qui séparait celle-ci de celle-là. Quand il avait été question de le donner pour professeur à Ghislaine, c'était à l'auteur du croisé et des avancérages que M. de Chambray avait pensé, et non au vieux bohème de Palaiseau. De l'auteur du croisé, il se rappelait les succès au temps où il avait rencontré dans le monde la réputation, le mariage extraordinaire. Du bohème, il ne savait rien, si ce n'est qu'il habitait à une assez courte distance de Chambray pour qu'on eût l'idée de s'adresser à lui plutôt qu'à un musicien qui viendrait de Paris. Mais il n'avait pas fallu longtemps pour que le bohème se montrât tel que la vie, la lutte et le pas de chance l'avaient fait. Partant de chez lui le matin pour venir à Chambray, il s'arrêtait au premier cabaret de la côte de Palaiseau pour boire le vin blanc sur le zin et prendre la force d'accomplir cette odieuse corvée qui consiste à donner une leçon de piano au lieu de rester attablé tranquillement avec les ouvriers carriers et les paysans qui composaient maintenant sa société. Au cabaret du bas de la côte, il faisait une seconde halte. Au café de la gare, il en faisait une troisième. S'il ne trouvait personne à qui causer, c'était bien, il prenait le train. Mais si un visage ami ou simplement connu lui souriait, il s'asseyait. Les verres se succédaient et au lieu d'être à Chambray dans la matinée comme il le devait, il n'y arrivait qu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi.
Retenu, à mon grand regret, empêché. « Vous comprenez ?»
Et Lady Cappadoce, si scrupuleusement exacte cependant, comprenait parfaitement.
« Les artistes sont esclaves de l'inspiration, tout le monde sait cela. Nous ne pouvons pas vous en vouloir d'un retard qui, peut-être, nous vaudra un chef-d'œuvre. »
En attendant le chef-d'œuvre qui se faisait attendre, ce que ce retard valait à Ghislaine et à Lady Cappadoce, c'était une odeur de vin blanc mêlée à celle des liqueurs qui emplissaient la salle de travail, et quand Soupert se mettait au piano, c'était qu'il frappa un la ou un fa au lieu d'un sol, incapable qu'il était de diriger ses doigts tremblants. Un professeur de lettres ou de sciences eût apporté ses parfums que Lady Cappadoce n'eût éprouvé aucun embarras avec lui. Elle l'eût tout de suite remercié. Mais ce procédé expéditif était-il applicable à un musicien, à un maître tel que Soupert, dont elle avait les romances dans le cœur et les airs de danse dans les jambes? Elle ne l'avait pas pensé. Il fallait aviser, s'ingénier, chercher, trouver quelques moyens qui empêchassent ces accidents de se produire. Que Soupert partit de chez lui pour venir directement sans s'arrêter en route, il n'aurait pas d'occasion de se parfumer à l'anisette ou au cassis. Pour cela, il n'y avait qu'à l'envoyer chercher en voiture. Lorsqu'elle lui avait fait, avec toute la diplomatie dont elle était capable, cette proposition, il avait commencé par refuser. La promenade du matin est hygiénique. Mais elle s'était montrée si pressante qu'il avait dû accepter. Il avait été calculé qu'il arriverait au château un peu avant 9 heures. La première fois qu'on alla le chercher, il arriva à 10h30 et Lady Cappadoce eut la douleur de constater que le professeur et le cocher étaient exactement dans le même état pour s'être arrêtés à tous les bouchons de la route. Boire avec un valet! Il avait fallu prendre un parti et Soupert avait été prévenu que, à cause de l'irrégularité dans ses heures qui dérangeait tous les autres professeurs, Mademoiselle de Chambray renonçait à ses leçons. Un autre que Soupert se fut fâché de ce remerciement, mais lui n'était pas homme à le prendre par le mauvais côté, et bien qu'il lui enlevât 200 francs par semaine, qui était à peu près sa seule ressource, il s'était tout de suite consolé en se disant que c'était la liberté qu'il recouvrait. Maître de son temps désormais et n'ayant plus à se préoccuper de ses leçons, il aurait le loisir de faire les démarches nécessaires pour que son répertoire fût repris. C'était parce qu'on ne le voyait pas assez souvent qu'on le négligeait. Il se montrerait. Une seule chose l'avait contrarié, l'abandon d'une élève qui l'intéressait. Elle était née musicienne, cette jeune fille, et il serait vraiment dommage qu'elle tombât entre de mauvaises mains. Il ne fallait pas, il ne voulait pas qu'elle reçût maintenant les leçons de gens qu'il méprisait. Et pour que cela n'arrivât pas, il avait proposé à Lady Cappadoce de le remplacer par un de ses anciens élèves, celui qu'il avait formé avec le plus d'amour, en qui il mettait le plus d'espérance, qu'il continuerait peut-être un jour, Nicétas. Bien que les déceptions que Soupert lui avait causées eussent été cruelles et mortifiantes, Lady Cappadoce avait encore assez confiance en sa probité d'artiste pour le croire en un pareil sujet. D'ailleurs, Nicétas offrait des garanties personnelles, il était premier prix de violon du conservatoire de Vienne, premier prix également du conservatoire de Paris.
et quand Soupert affirmait que le meilleur accompagnateur que put trouver mademoiselle de Chambray était ce jeune musicien, il semblait qu'on pouvait se fier à cette parole. Mais Soupert, ne s'en tenant pas à ces titres sérieux qui recommandaient l'artiste, avait ajouté tout bas et confidentiellement des détails particuliers sur l'homme dont Lady Cappadoce s'était émue.
« Je dois vous dire que ce qu'est Nice est à au juste, je n'en sais rien. »«
Mais alors ?»«
Évidemment, il flotte dans une atmosphère mystérieuse. Quelle est sa nationalité ? Je n'ai que des probabilités à ce sujet. Comment se nomme-t-il de vrai ? Je l'ignore. »
Et vous le recommandez ?
Qu'il soit russe, français, italien, qu'il s'appelle Alexis, Jacques, Emilio, cela ne lui donne ni ne lui retire du talent, et il me semble que c'est le talent seul qui doit vous influencer. En tout cas, c'est lui qui m'a fait m'intéresser à Nicétas. Un jour, il va me trouver à Palaiseau et me demander mes conseils, sinon mes leçons. Nous étions en été et la poussière couvrait ses chaussures, la sueur ruisselait sur son visage comme s'il avait fait la route à pied. Je le questionnai. Il me répondit qu'en effet, il était venu à pied. 8 lieues, aller et retour, pour me demander un conseil, cela me toucha. Je lui offris de se rafraîchir. Il dévora une miche de pain. Je me mis à sa disposition pour lui donner autant de leçons qu'il voudrait en prendre. Ce fut le commencement de nos relations. Elles continuèrent sans que j'apprisse rien ou à peu près rien sur lui, tant il était réservé et discret. Il était remarquablement doué pour la musique. En toute chose, son éducation avait été poussée beaucoup plus avant que ne l'est ordinairement celle des virtuoses. Il parlait plusieurs langues, voilà tout ce que je savais de lui. Il y avait à peu près 1 an que je le connaissais, lorsque par hasard je lui parlais d'une de mes anciennes élèves que j'aimais beaucoup, qui allait partir pour la Russie et que j'aurais voulu servir dans ce pays. La façon dont je m'exprimais lui montra combien je m'intéressais à elle. « Je puis lui donner des lettres qui lui ouvriront quelques portes, » me dit-il. « Vous avez habité la Russie ?»«
Oui. »
Il me donna ses lettres. L'une était pour une grande duchesse, les autres pour des personnages de la plus haute noblesse. Vous comprenez ma stupéfaction. Comment avait-il des relations dans ce monde, est-elle qu'il pouvait y présenter quelqu'un ? Malgré ma curiosité, je ne lui adressais pas de questions. À quelque temps de là, le hasard me fit monter chez lui, car, après l'avoir fait engager au concert populaire, je lui avais trouvé aussi quelques leçons, et il avait maintenant un chez-lui sous les toits. C'était la première fois que j'entrais dans sa chambre, sa pauvre chambre. Au mur était accrochée une gravure, un portrait, celui d'un personnage revêtu d'un uniforme étranger chamarré de décoration. Un nom avait été gravé au-dessous, mais il était effacé. À côté se lisait, de l'écriture de Nicétas que je connais bien, cette étrange inscription « Haine éternelle ».
Voilà qui est bizarre.
Ce qui l'est plus encore, c'est qu'entre le personnage qui représente ce portrait et Nicétas, il y a une ressemblance frappante.
Son père alors ?
Je ne suis pas naturellement bien curieux, mais j'avoue que cette histoire du portrait, s'ajoutant à celle des lettres, m'intéressa. Je voulus en savoir un peu plus long et, sans forcer les confidences de Nicétas par des questions, lever un coin du voile dans lequel il s'enveloppe.
Et vous y êtes arrivé ?
Non pas avec certitude, mais au moins avec des probabilités. Il serait le fils d'un personnage russe qu'il aurait eu d'une jeune fille de Nice, aimée pendant un séjour que ce personnage aurait fait dans le Midi. Obligé de retourner en Russie, ce personnage maria sa maîtresse à un professeur du conservatoire de Marseille, et celui-ci, moyennant le paiement d'une grosse somme, reconnut l'enfant. Pendant 7 ou 8 ans, Nicétas vit auprès du mari de sa mère, mais martyrisé par celui-ci, il écrit à son vrai père, qui vient le reprendre, le rachète, l'emmène en Russie et le fait élever dans sa propre famille avec ses autres enfants. Ce serait pendant ce temps qu'il aurait été le camarade de ceux et de celles pour qui il m'a donné des lettres de recommandation. Un jour, son père meurt et l'enfant naturel est chassé de la maison paternelle. Jeté sur le pavé, il vient, je ne sais comment, à Vienne, entre au conservatoire où il obtient un premier prix et arrive enfin à Paris où il en obtient un autre. Il n'en fallait pas tant pour que l'esprit romanesque de Lady Cappadoce s'enflammât. Mais c'était presque un personnage de roman, ce jeune musicien.
De plus, il avait de la naissance, une naissance illustre à coup sûr, car sur ce point, sa certitude d'anglaise affolée de supériorité aristocratique allait plus vite et plus loin que les probabilités de Soupère.
« Amenez-le, cher monsieur Soupère !»
Quand elle l'avait vu arriver au château, amenée par Soupère, elle n'avait plus douté de cette naissance illustre. Évidemment, ce jeune homme de 23 ans, de grande taille, large d'épaules, à la tête énergique et bizarre, aux longs cheveux noirs qui lui retombaient sur le cou et sur le front en boucles frisées, était quelqu'un. Peut-être y avait-il de l'affectation dans les désordres voulus de cette chevelure tortillée en serpent. Peut-être les yeux ardents qui brillaient à travers ces mèches ramenées en avant, au lieu d'être rejetées en arrière, cherchaient-ils à donner à leur regard une expression peu naturelle, toujours en quête d'un effet quelconque. Mais qu'importait, cela n'empêchait pas qu'il fût étrangement original, comme il convenait à un homme de son sang. Un Romanov, elle était sûre que c'en était un, maître de musique de la princesse de Chambray, au-dessus de lui, une Cappadoce, c'était bien.